Marianne, chapitre 21. Veux-tu me donner le bras ? Dit Pierre en s'arrachant à regret à l'oasis fleurie, où pour la première fois Marianne avait trahi le secret de ses rêveries solitaires. On ne peut pas marcher deux de front ici, répondit Marianne. C'est une promenade pour une personne seule.
Seule ? Tu ne le seras pas toujours. Je crois que bientôt tu feras faire ici une allée.
Doublons le pas, dit Marianne. Voici Monsieur Gaucher qui nous cherche. Je ne veux pas qu'il entre dans mon désert. Et elle se mit à courir, adroite et légère, sur ce terrain raviné qu'elle effleurait comme une hirondelle. « Merci, Marianne !» lui criait Pierre dans son cœur. Mais l'espèce d'ivresse où il était plongé se dissipa vite lorsqu'il vit Marianne accepter le bras que Philippe lui offrait pour rejoindre Madame André. Il eût voulu qu'elle trouvât un prétexte pour le refuser. Il est vrai qu'il n'y en avait pas de plausible, à moins de prendre un rôle de béguine. Marianne semblait peu disposée à se poser en prude vis-à-vis de Gaucher. Elle avait fait une toilette assez voyante, une robe de mousseline de laine bouton d'or, qui donnait à sa peau brune un reflet très favorable. Au cou et au bras, ce ton vif était coupé et adouci par des ruches de tulle unies très transparents. Rien dans ses cheveux noirs qu'une rose jaune nuancée de rose. Mais sa chevelure épaisse et courte était bouclée avec plus de soin qu'à l'ordinaire. Elle était bien chaussée, et son pied, qu'elle cachait presque dans de grosses bottines et même dans de vulgaires sabots de noyer, était une merveille de petitesse. Gaucher l'examinait avec une curiosité hardie qui ne semblait pas lui déplaire. Il regardait son pied, sa main, sa taille, d'un air de connaisseur satisfait qui veut que l'on constate sa satisfaction. Il ne se gêna pas pour lui dire qu'elle avait une robe délirante de ton et que sa taille était un palmier balancé par la brise.
« Ma taille, un palmier ?» répondit gaiement Marianne.
« Alors, c'est un palmier nain, un chamérops, n'est-ce pas, mon parrain ?»«
Oh oh ! « Savante ! » s'écria Philippe naïvement.
« Non, monsieur, pas du tout. Monsieur Pierre a un palmier comme cela dans une caisse, et j'ai retenu le nom.
Mais vous aimez les fleurs, car vos vases et vos corbeilles sont des merveilles de goût.
Ce ne sont que des fleurs de nos haies et de nos prés. Je les aime mieux dehors que dans mon petit salon. Mais je n'ai pas souvent le plaisir de recevoir Madame André. Et comme les anciens offraient des victimes à leur dieu protecteur, moi, je sacrifie de belles plantes à ma bonne amie.
« Je n'y vois pas un brin de chèvrefeuille, » dit Philippe, qui avait suivi Marianne dans le salon où se reposait Madame André.
« Suzon aurait pu nous en donner un peu du sien, » répondit Marianne. Mais comme le collier la gênait, elle s'est roulée avec, et je vous laisse à penser en quel état elle l'a mis. Il n'en restait que l'adresse dont elle ne s'est pas souciée, sous prétexte qu'elle ne sait pas lire.
« Vous riez, monsieur André ?» dit Philippe à Pierre.
« Pourquoi ? J'ai atteint mon but, pourtant. »«
Vous aviez un but ?» dit Marianne.
« Sans doute. Je voulais vous faire savoir que j'avais pensé à vous dès avant le jour. »
« Vous le savez, c'est tout ce que je demande. »«
Et qu'est-ce qui vous a pris de penser à moi de si grand matin ?»«
Vous voulez que je vous le dise ?»«
Puisque vous voulez que je vous le demande. »«
Puis-je vous répondre comme cela, devant témoin ?»«
Vous ne m'avez pas dit en secret que j'avais été l'objet de vos pensées. »« Il ne faut pas commencer tout haut un propos qu'on serait obligé de finir tout bas. »« Il vaut mieux ne rien dire. »
En d'autres termes, j'aurais mieux fait de me taire.
Je ne dis pas cela. Je désire savoir ce que vous pensiez de moi ce matin.
C'est sans doute quelque chose d'agréable, puisque vous avez fait la cour à Suzon.
J'ai pensé que vous étiez un type de grâce et de charme à faire tourner la tête.
Merci, mon bon monsieur. Vous faites la charité d'un compliment avec une tranquillité de souverain. Faut-il faire la révérence ?
Si vous voulez, mademoiselle Marianne.
Voilà, monsieur Philippe, répondit-elle en faisant une révérence académique très moqueuse, mais pleine de gentillesse. Pierre la regardait avec stupéfaction. Il ne se doutait pas qu'elle pût être animée et coquette à ce point. Philippe, enhardi, se mit à lui faire la cour, enchanté d'être raillé par elle, et pensant, comme tout autre l'eût pensé à sa place, qu'elle prenait grand plaisir à le rendre amoureux.
Chapitre 22. On servit le dîner sous les pampres et les jasmins, dont les longues guirlandes descendaient sur l'auvent et retombaient en franges autour des convives. La table était toute brillante de vieille faïence, alors sans grande valeur, mais qui aujourd'hui serait fort estimée, et dont les couleurs gaies, se détachant sur un fond bleuâtre, réjouissaient la vue. Marianne avait remis en vue d'anciennes verreries de Nevers que ses parents n'osaient plus faire paraître, parce qu'on n'estimait plus les antiquailles, mais qu'un amateur eût admiré. Philippe était assez artiste pour apprécier au moins l'étrangeté de ces jolis ustensiles, et il ne laissa échapper aucune occasion de louer l'ensemble et les détails du service. Il mangea de grand appétit, car Marichette, dirigée par la demoiselle, était une fine cuisinière, et les mets les plus simples devenaient de friands morceaux en sortant de ses mains. Il y avait encore quelques bouteilles d'excellent vin dans le cellier du père Chevreuse. Marianne n'y avait pas fait de tort. En somme, elle mit à son petit dîner autant de coquetterie qu'elle en avait mis dans sa personne et dans ses manières. Philippe, qui ne croyait pas du tout à son personnage d'hôte inattendu, jugea facilement que tout allait grand train pour lui, et qu'il n'aurait pas de peine à se donner pour emporter d'assaut le cœur et la dot de la demoiselle. Il était, sinon gris, du moins un peu tendre au dessert. Pierre, en voulant le retenir par la critique et la contradiction, ne faisait que l'exciter. Madame André, espérant le rendre ridicule, le taquinait ouvertement. Marianne le provoquait à la confiance et à l'expansion avec une finesse qui pouvait fort bien lui paraître un encouragement, si bien qu'au sortir de table, après 1000 fusées de galanteries louangeuses, les unes assez bien tournées et les autres d'assez mauvais goût, Philippe s'empara du bras de Marianne, disant qu'il voulait voir les grands bœufs et les gros moutons, vu qu'un paysagiste appréciait le bétail mieux qu'un agriculteur.
« Je n'en crois rien, » dit Marianne en retirant son bras. « Vous avez la prétention d'apprécier tout mieux que nous, à la campagne comme à la ville, parce que vous êtes artiste de profession. Moi, je dis que le métier gâte tout et que vous ne voyez rien. » Et comme Philippe se récriait, « Vous voyez trop, » reprit-elle, « et vous voyez mal. Vous voulez traduire des choses qui ne se traduisent pas. Le beau est comme Dieu, il est par lui-même, et ne gagne rien à être vanté par des hymnes et des cantiques. Au contraire, les paroles, les chants, les peintures, tout ce que l'on invente pour embellir le vrai, ne sert qu'à diminuer le sentiment qu'on en a, quand on le contemple sans se préoccuper de la manière de l'exprimer.
« Quoi ? Qu'est-ce que cela ? » s'écria Philippe. « Anti-artiste ? Bourgeoise par système ? Cela jure venant de vous comme une chenille sur une rose. »
« Ah, je vous y prends, » répliqua vivement Marianne. « Une chenille ne jure pas sur une rose, car précisément celles qui vivent sur nos rosiers sont fines, lisses et d'un vert printanier extrêmement fin. Vous n'avez jamais regardé une chenille, monsieur le peintre. Il y en a qui sont des merveilles de beauté, et je n'en connais pas de laide. Comment verriez-vous mes grands bœufs, puisque vous ne pouvez même pas voir une si petite bête ?
Est-ce que c'est vous ? Dit Philippe à André. Vous, naturaliste, qui avez persuadé à votre filleule que l'art tuait le sentiment de la nature, je vous dirais alors que vous lui avez enseigné un joli paradoxe.
Cela se présente en effet comme un paradoxe dans votre discussion, répondit André, et votre prétention n'est pas moins paradoxale que celle de Marianne. Je crois qu'en plaçant mieux la question, on pourrait mieux discuter.
« Placez-la bien, mon parrain, » dit Marianne.
« Eh bien, la voici comme elle m'apparaît, » reprit Pierre en s'adressant à Gaucher. « Vous croyez que pour voir, il faut savoir, et je suis de votre avis. Le naturaliste voit mieux que le paysan. Mais l'art est autre chose que la science, et il faut le sentir avant de savoir l'exprimer. Voilà ce que veut dire Marianne. » Elle pense que vous n'avez pas encore assez contemplé et assez aimé la nature pour la rendre. Notez que, pas plus que moi, elle n'a vu votre peinture, et que par conséquent, ce n'est pas votre talent qu'elle critique. C'est votre théorie, un peu cavalière dans la bouche d'un tout jeune homme. Elle croit qu'on ne doit pas aller de l'atelier à la campagne, mais aller de la campagne à l'atelier, c'est-à-dire que l'on n'apprend pas à voir parce que l'on est peintre, mais que l'on apprend à être peintre parce que l'on sait voir. N'est-ce pas là ce que tu voulais dire, Marianne ?
Absolument, répondit-elle. Donc, vous me donnez raison ?
Allons voir les bêtes, s'écria Philippe. Je vois bien qu'ici, on a trop d'esprit pour moi.
Allons voir les bêtes, soit. Répondit Marianne. Vous venez, mon parrain ?
Et elle ajouta tout bas : Je vais avec vous jusqu'aux étables et je reviens ici faire la partie de votre mère.
Nous vous suivons, répondit Pierre. Mais il ne les suivit pas. Il revint au salon avec Madame André en lui disant : Laissons-les s'expliquer ensemble. Le moment est déjà venu où Marianne va se décider. Elle l'a voulu, elle l'a mis en confiance. Il va résumer en une seule toutes les déclarations qu'il lui a faites pendant le dîner. Si cela plaît à Marianne, notre avis est fort inutile. Nous n'aurons qu'à dire amen. Madame André était inquiète. Elle ne voulait pas que Pierre abandonnât ainsi la partie. Elle le força d'aller rejoindre Marianne. Il lui promit d'obéir, et s'en alla tout seul au fond du petit désert, où il avait eu, quelques heures auparavant, un moment de bonheur et d'espoir. Il l'avait déjà perdu, et toute sa vie manquée par excès de modestie lui apparaissait comme une raillerie amère devant le triomphe subit d'un enfant qui n'avait peut-être pas d'autre mérite que la foi en lui-même. Au bout d'une heure de profonde tristesse, il revint auprès de sa mère, qu'il retrouva causant ménage avec la marichette, tout en l'aidant à replacer dans les placards du salon les vieilles faïences et les jolis ustensiles de verre.
« Eh bien ? » dit-elle en prenant le bras de Pierre et l'emmenant au jardin. « Tu reviens seul ?»«
Je ne sais pas où ils sont, » répondit Pierre. « Je croyais les retrouver ici. »
Ils firent le tour de la tonnelle de vigne. Il n'y était pas.
« Vous voyez bien, disait Pierre, que ce tête-à-tête prolongé est définitif.
« Non, c'est qu'ils sont encore à la ferme. Vas-y donc.
« Je ne veux pas avoir l'air de les surveiller, et s'ils font une promenade sentimentale dans le bois de hêtre, je ne veux pas, en les cherchant, attirer sur Marianne l'attention des gens de la ferme. »
Ils rentrèrent au salon, d'où Marichette s'était retirée. Et ils attendirent encore un quart d'heure. Madame André était pleine de dépit et d'anxiété. Pierre était muet et comme brisée. Enfin, Marianne entra seule, un peu agitée, quoique souriante. « Pardonnez-moi, ma bonne amie, » dit-elle en embrassant Madame André. « Je vous fais bien mal les honneurs de chez moi, mais c'est votre faute. Pourquoi m'avez-vous amené un hôte si entreprenant ?»«
Entreprenant ?» dit Pierre avec une amertume ironique.
« Eh oui, il veut qu'au bout de 3 heures je l'aime et lui promette de l'épouser. C'est un peu vite, convenez-en. »«
Ce n'est pas trop vite s'il a réussi à te décider. »
« Je suis décidée, » dit Marianne.
« Alors, » reprit Pierre navré, « tu viens nous annoncer ton prochain mariage. Pourquoi n'est-il pas là pour nous dire son triomphe ?»«
Oh, il a le triomphe modeste, il est parti. »«
Il retourne seul à Dolmore ?»«
Non, il retourne à Paris. »«
Achetez les livrets, » dit Madame André, qui entendait par là, comme les gens de campagne, les cadeaux de noces.
Il les achètera sans doute bientôt pour une Parisienne, répondit Marianne, car il m'a déclaré en avoir assez des demoiselles de campagne.
Chapitre 23. Madame André se leva toute droite en s'écriant:
Ainsi, tout est rompu!
Marianne regarda Pierre, qui n'avait pu contenir un cri de joie.
En êtes-vous content, mon parrain?
Dit-elle.
Non, si tu le regrettes.
Je ne le regrette pas. Il n'avait pour lui que son audace, qui d'abord m'avait donné bonne opinion de lui. Je me disais qu'avec un homme si décidé, je n'aurais jamais la peine d'avoir une volonté à moi, et je trouvais cela très commode. Mais quand on ne doute de rien, il faut avoir beaucoup de jugement. Et au bout de 3 de ses paroles, j'ai vu qu'il pouvait avoir du cœur, de l'esprit et de la bonté, mais pas l'ombre de raison. Qu'est-ce que je deviendrais, moi si nulle et si faible, avec un maître sans cervelle? Ce n'est pas possible. Et comme il voulait absolument savoir mon opinion sur son compte, je la lui ai dite tout bonnement. « Comme je vous l'ai dit. »«
Raconte-nous donc comment cela s'est passé, » dit Madame André. « Et d'abord, où étiez-vous? Est-ce dans l'étable à bœufs qu'il t'a fait sa déclaration ?»«
Non, c'est dans le pré, là, de l'autre côté du buisson. »« Je m'étonne que vous ne nous ayez pas entendus, car nous nous disputions fort en marchant. »« Quant à la déclaration, elle était toute faite ici, devant vous. » Sous l'influence du vin muscat, et il n'avait pas besoin d'y revenir.
Il a parlé mariage, de suite, mais comme mon parti était déjà pris, je lui ai répondu tout de suite que je ne voulais pas me marier. De là la querelle. Il a le vin mauvais quand on le contrarie. Il m'a reproché d'être une coquette de village et de l'avoir rouée tout le temps du dîner. Il m'a même dit des choses assez dures que je me suis laissé dire. Je les méritais. J'avais été coquette, certainement, et je mentirais si je ne l'avouais pas. Seulement, mes coquetteries n'étaient pas pour lui, et comme je ne pouvais pas lui confesser mon secret, j'ai mieux aimé lui laisser penser de moi ce qu'il voudra.
« Et pour qui donc tes coquetteries ?» dit Madame André.
« Pour quelqu'un qui ne veut pas deviner ce qu'on ne lui dit pas. » Pour s'entendre avec ce quelqu'un-là, il faudrait avoir l'aplomb de M. Philippe. J'ai essayé de l'avoir, et je ne demandais qu'à être excité par ses louanges pour avoir le courage qui m'a toujours manqué. Mais le professeur est déjà parti, et je me demande s'il m'a réellement trouvée intelligente et jolie, car je recommence à douter de moi.
« Marianne ! Marianne ! » s'écria Pierre en tombant aux genoux de sa filleule.
« Si tu m'as deviné malgré ma sauvagerie, tu me la pardonneras, car je l'ai bien expié aujourd'hui. »«
J'ai quelque chose à me faire pardonner, moi aussi, » répondit Marianne. « J'ai lu ce qu'il y avait dans votre carnet, mon parrain. Vous l'avez laissé tomber avant-hier sur l'herbe du petit chemin, pendant que vous me parliez de M. Gaucher. Je l'ai trouvé en revenant.
J'ai cru que c'était un album de dessin, comme vous en faites souvent dans vos promenades. Je l'ai ouvert. J'ai vu mon nom. Dame, j'ai lu, j'ai tout lu. Et le soir, j'ai reporté le livre et l'ai posé sans rien dire sur la table de votre salon, à côté de votre sac. Voilà mon crime. J'ai su alors que vous doutiez de mon affection et que vous regrettiez de n'y pouvoir compter. J'ai voulu voir si vous seriez jaloux du prétendant. J'ai été aimable. Et à présent...
À présent ! S'écria Madame André. Il est heureux, car il avait beau me le cacher, je le devinais bien, moi, son ennui, et pourquoi il disait tant de mal de lui-même.
Mais je ne te vaux pas, Marianne, dit Pierre avec un dernier sentiment d'épouvante.
Je ne te mérite pas, tu es un être adorable, et je suis...
Ne dites pas ce que vous pensez de vous, reprit vivement Marianne. Vous avez assez dit devant moi tout ce que vous pouviez imaginer pour me décourager de vous aimer. Vous n'avez pas réussi. C'était mon idée depuis 6 ans. Je ne croyais pas, quand j'ai commencé à penser à vous, que vous seriez si longtemps sans revenir. Je vous attendais toujours, moi, avec cette patience de paysan qu'on apprend chez nous dès l'enfance. Mais votre retour m'avait découragée, car je voyais bien que vous vous défendiez d'aimer. Et sans votre carnet, j'aurais cru que tout était fini pour moi. J'ai repris courage en voyant que vous songiez à moi malgré vous. Et puis, ce matin, j'ai vu 2 larmes dans vos yeux. Allons, convenons-en que nous nous aimons et qu'à présent il nous serait impossible de vivre l'un sans l'autre.
Oui, impossible, répondit Pierre-André, car jamais 2 âmes n'ont été aussi semblables que les nôtres. Timides et concentrés tous deux, nous avons pourtant la même franchise et la même droiture. Nous avons les mêmes goûts, avec les mêmes empêchements pour les manifester en public, mais avec le même besoin de nous les révéler l'un à l'autre et de les savourer en commun. Nous adorons la nature et nous aimons les champs. Séparés, nous les avons aimés avec mélancolie et nous allons les aimer avec transport. Mais ce qui nous a le plus manqué, manquer à tous deux, je t'assure, c'est l'amour vrai, l'amour partagé, la confiance illimitée en un être qui est un autre nous-mêmes. À 40 ans, je t'apporte un cœur qui ne s'est nourri que de rêves et qui est vierge de cet amour-là. Accepte-le comme ton bien, car tu seras tout pour lui, le passé, le présent et l'avenir. Il faisait nuit quand Pierre et sa mère quittèrent Valida. Madame André voulut marcher un peu, et puis elle monta dans la patache en les laissant la suivre, car elle sentait qu'ils avaient besoin de se parler seul à seul. Et Marianne, qui avait la voiture pour revenir chez elle, marcha jusqu'à Dolmore au bras de son parrain, qu'elle s'était remise à tutoyer et à appeler Pierre.
« Quelle nuit ! Lui disait-il en regardant avec elle le ciel étoilé. « Quel air vivifiant et quel parfum de plantes! Je crois que ce soir, la terre et même les pierres sentent bon. Jamais je n'ai vu des étoiles si pures, et il me semble que nous traversons un pays de fées qui s'est fait là autour de nous, à notre insu, depuis ce matin. Ah, si j'avais été heureux comme cela dans ma première jeunesse, je serais devenu un grand poète et un grand peintre.
Dieu merci, répondit Marianne, tu n'es rien devenu de tout cela, car tu me trouverais trop au-dessous de toi, moi qui ne sais rien de ces belles choses. Mais il me semble que, n'étant pas capable de dire pourquoi j'aime tant la nature, je l'aime davantage. Monsieur Philippe me faisait horreur aujourd'hui quand il trouvait des mots d'une pédanterie bizarre pour qualifier tout ce qu'il voyait. Non, il n'y a pas de mots pour dire, et je crois que plus on dit, moins on voit. La nature, vois-tu, Pierre, c'est comme l'amour. C'est là, dans le cœur, et il ne faut pas trop en parler, car on rapetisse toujours ce qu'on veut décrire. Moi, quand je rêve, je ne sais pas ce qu'il y a dans moi. Je ne vois que ce qui est entre le ciel et moi.
Moi, d'ailleurs, je ne compte pas. Si je pense à toi, il me semble que je suis toi et que je n'existe plus. Et voilà pour moi le bonheur, la poésie, la science. » Après que Marianne fut remontée dans sa patache et que Pierre fut rentré chez lui, il trouva cette lettre que Philippe y avait laissée. « Mon cher André, je suis revenu prendre mon bagage chez vous et je pars en vous remerciant de votre bon accueil. Ce n'est pas votre faute si votre jolie voisine s'est moquée de moi. C'est la mienne. J'aurais dû ouvrir les yeux davantage et m'apercevoir à temps de sa préférence pour vous. Préférence qu'elle ne m'a point avouée, mais qu'elle n'a pas pu me dissimuler jusqu'au bout. Je n'aurais pas été amoureux d'elle pendant 3 ou 4 heures. Mais ce sont là des amours dont on ne meurt pas, et je reste votre ami et le sien, car elle est une charmante femme, et je vous félicite de votre bonheur. » Le lendemain, on publia les bans de Pierre André et de Marianne Chevreuse.